Bonjour, je m'appelle Jacques Méry. Et le but de cet enregistrement est simplement de vous faire connaître les conditions de vie exactes qu'avaient les détenus à l'unité spéciale de correction. Quand un détenu arrivait à l'unité spéciale de correction, on vous précisait que pendant 2 mois, vous n'auriez aucun droit. Puis on vous précisait aussi qu'il fallait jamais parler. Que pendant 2 mois, vous n'auriez jamais le droit de parler.
Québec. Année 1972. Jacques Mérine parle de son séjour à l'unité spéciale de correction du vieux pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, situé un peu au nord de Montréal, où il purge une peine de prison dans un univers particulièrement difficile.
Le détenu qui vit à l'unité spéciale de correction est enfermé dans une cellule en ciment. C'est-à-dire que tout ce qu'il voit, c'est 4 murs de ciment, un mur de ciment au-dessus de lui et une porte fermée complète. Ce genre de cellule donne un peu l'impression, vous savez, d'une boîte d'un carton d'allumettes. Si on mettait une mouche dedans avec un petit trou pour la faire respirer, c'est à peu près le genre de conditions de vie qu'on offre aux détenus de l'unité spéciale. On lui laisse la lumière 24 heures par jour. Motif sécurité.
Jacques Mérine est à l'époque un criminel encore inconnu en France, mais qui est en train de se construire une réputation ici au Québec, notamment depuis qu'il s'est évadé d'un pénitencier de haute sécurité.
Tout ce qui est inhumain, en fin de compte, est toujours motivé par des motifs de sécurité. Sécurité qui, en fin de compte, prouve qu'elle est stupide, parce que s'il y avait sécurité, je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui.
C'est au Québec que la carrière criminelle de Mérine va prendre de l'ampleur. Enlèvement, braquage, évasion, meurtre. Révolté par ses conditions de détention, c'est aussi à cette époque-là, sur le nouveau continent, qu'il devient un véritable personnage médiatique. À bien des égards, le parcours de Mérine au Canada ressemble à celui qui le rendra ensuite si célèbre en France. Il me semble donc important de commencer par fouiller cette période de sa vie qui est, peu de gens le savent, le véritable début de la carrière de Mérine dans la grande criminalité.
Vous créez des monstres criminels. Et méfiez-vous des monstres criminels, car quand ils sont intelligents, c'est grave. C'est grave pour la société. Personnellement, je ne suis pas réhabilitable, je le sais.
En moins de 10 ans, de ses premières apparitions publiques au début des années 70 à sa mort ultra médiatisée à Paris en 1979, le parcours criminel de Jacques Mérine est une succession d'actes de violence accompagnés d'une notoriété de plus en plus grande.
Jacques Mérine, l'ennemi public numéro 1.
Mérine, l'ennemi public numéro 1.
Le gangster français le plus recherché par la police.
Jacques Mérine, né le 28 décembre 1936 à Clichy, alias Alain Cornio, alias Roger Lenoir, alias Paul Tourelle, alias Bruno Dansereau, alias Monsieur Tout.
Vous le reconnaissez, c'est Jacques Mérine. Enfin, pas vraiment. Celui que vous voyez est un acteur, parce qu'aujourd'hui, son nom n'est plus à la une des journaux, mais sur les affiches de cinéma.
Mon nom est Stéphane Berthomé et vous écoutez Mérine, l'orgueil et le sang. Premier épisode, créer son propre personnage.
Salut.
Messieurs, bonjour.
Bonjour. C'est paisible ici, hein?
Ouais.
Wow,
la montagne.
Un peu au nord de la ville de Québec, je rencontre Charles Bolduc. Ne cherchez pas son nom dans le milieu policier ou criminel, il n'a absolument rien à voir avec l'un ou l'autre. Charles Bolduc est tout simplement un collectionneur qui s'est pris de passion pour tout ce qui touche à Jacques Mérine.
Ici, garde, j'ai un peu ma collection de livres depuis les tout débuts. L'Instant de mort, qui a été réédité et réédité souvent dans tous les formats. Même format de poche, en sorte, lui plus rare. Deuxième édition, il est dur à trouver, je suis bien fier de l'avoir, c'est mon premier que j'ai eu. Ici, on a les livres de Sylvia Jean-Jacot, dernière édition qui est sortie.
La collection de Charles, étalée devant moi sur une grande table, est impressionnante et témoigne de la popularité du criminel à travers le temps, autant en France qu'au Québec.
Une photo de moi dans la chambre où ont séjourné Jacques Mérine et Jeanne Schneider à Percé, à l'auberge des Trois Sœurs.
Depuis des années, je mène des documentaires d'enquête sur des grandes affaires criminelles et je veux cette fois essayer de mieux comprendre ce qui se cache derrière l'homme et le parcours de Mérine. En tant qu'ancien policier qui travaille désormais dans les médias, j'ai un regard assez critique sur le traitement médiatique des criminels et de leurs forfaits. Dans le cas de Mérine, je veux essayer de décrypter le personnage et comprendre comment une telle réputation a pu se bâtir dans la France des années 70-80 qui ne manquait pourtant pas de redoutables criminels. Une réputation qui, 25 ans plus tard, continue de se propager à la simple évocation du nom de Mérine.
De tout et de tout. Des heures et des heures de plaisir, de lecture, puis de nostalgie, si on veut.
Je suis assez étonné de constater que des gens tellement éloignés de Mérine et de l'univers criminel soient aussi passionnés par son histoire.
Ben moi, tout premièrement, j'ai toujours été un peu attiré par le crime, la mort, plus jeune, les films d'horreur. Puis, au milieu des années 80, j'écoutais la télé. Je suis tombé sur un documentaire qui commence avec le corps d'un homme en plein Paris, mort, troué de balles. En partant déjà là, j'ai dit « Waouh, c'est quoi cette affaire-là? C'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qui se passe? » Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Là. Puis, en plein milieu du documentaire, ben là, il y a un extrait, c'est « Les trois complices font deux vols de banque en 10 minutes. Un à Saint-Bernard-de-Beauce, l'autre à Saint-Narcisse-de-Beau-Rivage. Peu importe. » Ben là, moi, je reste à Sainte-Marie-de-Beauce à l'époque. C'était à 15-20 minutes de chez nous. J'ai dit « Waouh! » J'ai dit « Là, on est à Paris. » On parle d'un Français, d'un criminel, d'un gars qui s'évade de prison, un gars qui fait des hold-up par dizaines. Puis là, le gars, il est venu à Saint-Bernard, à Saint-Narcisse. Je comprends pas. J'ai dit, je passe souvent par là, moi, parce que pour aller à Sainte-Agathe-de-Lobinière, on passait toujours par Saint-Bernard, Saint-Narcisse. Sainte-Agathe-de-Lobinière, qui est la ville natale de Jean-Paul Mercier. Le pourquoi que les deux gars ont commis leur vol là-bas. Je me suis dit, bon, je vais m'intéresser à ce gars-là.
Jacques Mérine, comme le prononcent ses proches, ou Mesrine, comme le disent de nombreux médias et policiers. Une dualité dans le nom qui cache peut-être autre chose dans l'histoire de Jacques et de Mérine. C'est ce que je tente de découvrir en essayant de mieux connaître l'un et l'autre. Mérine est quasiment devenu un mythe du monde criminel, à la fois dans les médias, mais aussi dans le milieu policier au sein duquel j'ai longtemps travaillé. Remontons quelques années en arrière. En juillet 1968, Jacques Mérine, alors âgé de 28 ans, et sa jeune compagne Jeanne Schneider sont arrivés au Canada. Jacques est encore un simple voyou qui n'est pas recherché en France pour des crimes de sang, mais plutôt pour des délits de moyenne importance, des vols à main armée, un cambriolage et des escroqueries. Dans le contexte de l'univers ultra-violent des années 70 où le meurtre était monnaie courante, les agissements de Mérine ne font pas de lui à cette époque un criminel de grande envergure. Pourtant, le couple a décidé de s'enfuir au Canada. À Montréal, Jeanne et Jacques se trouvent un emploi au service de l'homme d'affaires Georges Deslauriers. Mais après quelques mois, ils se décident à l'enlever pour demander une rançon à la famille. L'affaire est un échec cuisant pour le couple, car leur otage, pourtant lourdement handicapé, réussit à s'échapper tout seul de l'appartement où il était séquestré. Un coup extrêmement amateur et très facile à relier à ses ex-employés fraîchement licenciés, Jeanne et Jacques. Ils sont désormais recherchés par la police. En juin 1969, Jacques Mérine et Jeanne Schneider prennent la fuite en train en direction du village de Percé, en Gaspésie, à l'est du Québec. Je prends contact avec Pascal Alain, historien spécialisé qui a déjà donné des conférences sur le passage de Jacques Mérine dans sa région et qui connaît très bien le contexte de l'époque.
La planète est en ébullition. C'est la guerre du Vietnam, c'est mai 68, c'est le printemps de Prague qui a eu lieu aussi en 1968, c'est Martin Luther King, c'est le Black Panthers de Malcolm X. La jeunesse du monde entier se donne rendez-vous à Kathmandu au Népal. La jeunesse nord-américaine se donne rendez-vous à San Francisco, capitale de la contre-culture. Alors si on est moins friqué et si on est jeune Québécois, ben le lieu de rassemblement devient Percé. On se dirige à Percé à l'été 69.
C'est précisément vers ce village très animé que se dirigent Jacques Mérine et Jeanne Schneider.
L'année où Jacques Mérine débarque à Percé en Gaspésie, ben ça bouillonne, donc la marmite locale à Percé est plutôt en train de surchauffer, si je peux dire. On parle d'un petit village de pêcheurs qui se transforme graduellement en pôle artistique, culturel et touristique. Et son cœur s'étend sur quelques kilomètres, c'est tout petit, une petite communauté tissée serrée. Et c'est ce qu'on retrouve comme décor dans les années 60, lorsqu'arrive Jacques Mesrine en Gaspésie.
Le lieu incontournable du coin se nomme la Maison du Pêcheur. C'est une auberge dans laquelle la jeunesse indépendantiste québécoise se retrouve.
L'auberge de jeunesse est ouverte 24 heures sur 24. Les gens déposent de l'argent dans un chapeau. C'est communautaire. Il y a plus d'une centaine de personnes qui peuvent entrer à l'intérieur de ce bâtiment-là. Et là, vraiment, l'adage « sexe, drogue, rock'n'roll » s'applique. Alors, ils sont couchés sur la plage, certains sont sur de l'acide, on fume du pot. Et là, les visiteurs américains, tout en dimanché, débarquent sur la plage et voient des gens le lendemain de veille. À Percé, à l'été 69, c'est carrément le choc des cultures. C'est carrément rupture de valeur entre deux générations. Et très rapidement, ben, ça tourne au vinaigre.
Donc, lundi, la maison du pêcheur a été barricadée brutalement par le chef de police. Celui-ci a tout bonnement dirigé vers une centaine d'occupants, trois buissons jets d'eau, après avoir servi une dure droite à la figure du gérant de l'établissement.
Ça fait la une des journaux. Ça fait le tour de la province. Tout le monde en parle.
Mais en même temps, ce qui est drôle, c'est que le portrait que vous me dressez de Percé, c'est que c'est pas le petit endroit tranquille du moment, là. Sur le territoire du Québec, des endroits où aller se cacher après un enlèvement comme il en a commis un, celui de Georges Deslauriers, il y en a des millions, je veux dire, il y a des millions de kilomètres carrés de tranquillité au Québec.
Mais j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui veut s'emmerder non plus. Il veut quand même passer du bon temps. Il va passer du temps au pic de l'aurore, qui était une boîte de nuit à l'époque assez mouvementée. Alors, il décide quand même d'aller à 800 km de Montréal.
Il s'en va loin et il sort de Montréal et finalement, il veut se mettre un peu au vert, mais pas tout à fait, parce qu'il veut quand même aller dans un endroit où ça bouge, où c'est fréquenté, etc. C'est sûr que le Saguenay, ça aurait pu être une direction plus tranquille à l'époque, mais c'est pas celle qu'il choisit.
Effectivement.
La décision de Mérine et Schneider de venir à Percé, au lieu d'aller se cacher au fond des millions de kilomètres carrés que compte le pays, permet de comprendre que la discrétion n'est pas nécessairement leur priorité. Et d'ailleurs, c'est durant ce séjour, au beau milieu de l'été 69, que le couple Mérine et Schneider se retrouve impliqué dans une affaire criminelle retentissante. Le 30 juin au matin, Evelyne Leboutillier, la gérante du motel chez qui Mérine et Schneider viennent de séjourner, est retrouvée morte assassinée. Elle a été étranglée et des bijoux ont été volés. Dès lors, tout s'enchaîne rapidement. Tandis que les enquêteurs orientent leurs recherches vers le couple, Jacques et Jeanne s'en vont aux États-Unis. Un départ qui a tout l'air d'une fuite. Ils y sont arrêtés deux semaines plus tard et sont rapidement reconduits au Québec où ils sont remis entre les mains des policiers. C'est alors que se produit un événement qui est probablement l'un des moments cruciaux de la naissance de Mérine en tant que personnage public. Pour la toute première fois de sa carrière criminelle, Jacques Mérine se retrouve à son retour au Québec face à des journalistes avides d'en savoir plus sur ce bandit français et sa compagne, suspect dans une sordide affaire de meurtre au Québec. À son arrivée à l'aéroport de Montréal en août 69, Mérine va se servir de la situation à son avantage en s'adressant aux médias attirés par son histoire. J'ai parlé de cette scène assez surprenante avec Philippe Roisès, un auteur et réalisateur de documentaires, qui a entre autres écrit un livre sur Mérine.
On a l'impression que ça a été comme un point tournant dans le Mérine médiatique. C'est une sorte de charnière.
Ah, mais c'est évident. Enfin, je veux dire, avant ça, Mérine, il a deux entrefilets dans la presse locale près de Louviers et du Neubourg où il avait fait quelques coups. Mais c'est tout. Quand il arrive et qu'il voit quelques photographes et quelques journalistes et qu'il leur dit « Je vais demander aux policiers qu'ils m'installent un petit truc là dans un couloir, on va faire une conférence de presse. » Il connaît pas Raymond Daou encore.
C'est à ce moment-là en effet que Jacques fait la rencontre de celui qui jouera un grand rôle dans la médiatisation de Mérine. Il s'agit de Raymond Daou, qui est avocat, mais aussi propriétaire d'un journal spécialisé dans l'actualité criminelle, Photopolice.
Raymond Daou, homme prestigieux, habile. Alors, il y avait deux solutions avec un tel homme. Soit c'était la course à l'ego, soit ils tombaient réciproquement amoureux l'un de l'autre, tellement chacun pouvait apporter quelque chose à l'autre en conseil. Et il est clair que Daou avocat, Daou patron de presse, et quelle presse ? Le plus grand journal sur les affaires de criminalité et de justice. Enfin, vraiment, c'est du pain béni pour Mérine. Et donc, plus on fait des papiers sur Mérine, plus ça gonfle l'ego de Mérine. Mais plus il y a de papier sur Mérine, plus ça fait vendre aussi le journal auquel appartient Raymond Daou. Il y a vraiment comme ça un échange de bons procédés, une rencontre de deux personnalités assez proches. Mary n'est pas quelqu'un de bête et d'idiot du tout, donc il voit immédiatement le grand bénéfice qu'il peut en tirer.
Raymond Daou, fin criminaliste spécialisé dans la défense des criminels les plus importants au Québec, défend Mérine et Schneider. Il parvient, au terme de ce qu'on appellerait aujourd'hui un procès-spectacle, à les faire acquitter tous les deux de ce crime. Un meurtre qui encore aujourd'hui reste impuni et auquel, malgré son acquittement, beaucoup de gens continuent d'associer Mérine. Cependant, malgré tout le talent dont il a su faire preuve pour le crime de Gaspé, l'avocat Raymond Daou ne parviendra pas à leur épargner la prison dans la première affaire dans laquelle le couple a été impliqué à son arrivée à Montréal.
Jacques Mérine et Jeanne Schneider purgent actuellement des sentences respectives de 10 et 5 ans de prison par suite de l'enlèvement du millionnaire Georges Deslauriers de Saint-Hilaire en 1969.
Quand on examine attentivement, comme je l'ai fait, le parcours criminel de Jacques Mérine, on constate que c'est au Québec qu'il développe l'une des particularités criminelles qui fera ensuite sa réputation, les évasions. Durant sa brève détention à la prison de Percé, Mérine trouve le moyen de s'évader et de libérer Jeanne Schneider pour une cavale de courte durée. Une évasion qui n'a rien d'un exploit, puisque Mérine a profité de la naïveté de l'unique gardien du quartier des hommes pour l'enfermer à sa place dans sa cellule. Le gardien m'a raconté que Mérine lui a simplement demandé d'entrer pour vérifier la toilette qui ne fonctionnait plus, avant de s'emparer de la clé, imprudemment laissée sur la serrure. Mérine et Schneider sont très facilement repris à cause de la fumée d'un feu qu'ils ont allumé et qui a conduit directement les policiers jusqu'à eux le lendemain. Peu après, Mérine est détenue dans un lieu bien plus sécurisé, la prison d'Archambault. Pierre-Marie Lagier y est un jeune criminologue qui y mène alors des recherches.
Je vais faire un groupe de thérapie une fois par semaine avec ces multirécidivistes. Parce que c'est ça que je veux étudier. Je veux étudier les gros méchants. C'est en hiver 71. Eh ben, c'est là que je vais faire la connaissance de Jacques Mesrine. Eh ben, moi, je peux vous dire que c'était un des plus gentils. Le moins délinquant de la gang, si je puis dire. Pas du tout agressif. Toujours courtois avec tout le monde. Ben, une personnalité narcissique. Mais ça, c'était pas, je dirais que dans ma gang, ils étaient tous comme ça, hein. Ça n'avait rien d'extraordinaire. Mais chez lui, il y avait quand même le côté de vantardise, qui était très clair. Un gars qui est un affabulateur, qui raconte des histoires. Alors les autres, ils n'étaient pas français, ils n'avaient aucune espèce d'idée. Comme par exemple, là, il parlait de la guerre d'Algérie, à raconter des histoires pour se faire valoir. Un affabulateur, bon. Mais ça revient à de la mythomanie, parce que il finit par croire dans son personnage. Même à l'intérieur du groupe, il prenait, comment dire, mon Canadien, il prenait facilement le plancher.
Si Pierre-Marie Lagier se souvient bien de Mérine, c'est que dès son arrivée au Québec, le Français se vante d'avoir commis de nombreux crimes, dont une grande partie semble sortir tout droit de son imaginaire. Ce qui est évident cependant, c'est que Mérine est obsédé par l'idée de s'évader. On découvre lors d'une fouille dans sa cellule du pénitencier d'Archambault une corde et des outils. Il est envoyé au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. L'univers carcéral des années 70 au Québec est un milieu que connaît bien un autre expert en criminologie, Jean-Claude Bernheim.
Saint-Vincent-de-Paul, c'est un pénitencier extrêmement dur à vivre. D'abord, sur le plan architectural, il date de 1873. Donc, les cellules sont étroites et où l'usage de l'isolement est très fort. Dès qu'un détenu commence à se rebiffer, la sanction, c'est l'isolement. Et cet isolement n'a pas de limite.
Mérine est classé comme détenu à surveiller de près.
Dans les secteurs d'isolement, le trou, eh bien là, ce sont des secteurs beaucoup plus petits, beaucoup plus sombres. Les cellules sont plus petites et les personnes y restent 24 heures par jour, 23 heures par jour, sans aucune activité. Et ça a des répercussions sur l'équilibre de la santé mentale important.
Jusque-là, Mérine a peu connu la prison, mais surtout, il est ici soumis à un régime de fer qu'il a manifestement du mal à supporter.
Si un homme cherche à s'évader d'une autre prison, ce n'est pas une question que c'est un dur de dur, c'est un homme qui n'accepte pas sa situation d'être enfermé. Un homme ne peut pas accepter d'être éloigné de sa femme, éloigné de ses enfants, éloigné de ses parents, quoi qu'il ait fait. Il ne peut pas l'accepter. Ce n'est pas parce que vous allez mettre des barons en or dans sa cellule, puis lui donner la télévision, que cet homme-là peut vivre. Vous savez, aujourd'hui, je suis vivant, peut-être que demain, je serai mort. Je préfère sincèrement être mort que de vivre à l'unité spéciale de correction.
Le 21 août 1972, Mérine s'évade avec une poignée de complices du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul en coupant la clôture de l'enceinte avant de s'enfuir en voiture.
Les gardiens n'ont pas pu tirer parce qu'ils ne nous ont pas vus partir. Car s'ils nous avaient vus partir, ils nous auraient tirés. Ils nous auraient assassinés, sachant très bien qu'on n'était pas armés. Faut pas vous faire d'illusions, ils nous auraient tirés comme des chiens.
Ils sont tous repris dans les semaines qui suivent, à l'exception de Jacques Mérine et de son complice, Jean-Paul Mercier. Si l'exploit semble impressionnant, dans les faits, plusieurs évasions se sont produites auparavant, au point que la prison est surnommée la passoire dans un article d'un journal local. C'est un morceau de l'histoire pénitentiaire du Québec que connaît bien Jean-Claude Bernheim.
Mesrine s'est évadé, mais il y a eu d'autres évasions, il y a eu d'autres événements. C'est la marmite bouillait à l'époque.
Les années 70, là, c'est des années extrêmement violentes, hein.
Très violente. Dans les pénitenciers 70-80, c'est très, très violent. Les suicides sont très nombreux, les homicides entre détenus très fréquents, des prises d'otages très nombreuses, sans compter quelques émeutes. Donc, oui, ça a été une période très, très agitée.
Dans les années 70, au Québec comme en France, le milieu pénitentiaire fait face à un mouvement de contestation assez inédit. Mérine adresse alors des cassettes audio au journal Photopolis, dirigé par son avocat Raymond Daou, qui lui offre une formidable tribune médiatique.
Bonjour, je m'appelle Jacques Mérine.
Photopolis publie aussi plusieurs articles sur les prisons, et en particulier sur l'unité spéciale de correction. C'est un sujet important pour l'avocat Raymond Daou, qui se sert de Mérine comme d'un porte-parole pour médiatiser sa cause, comme il le raconte dans cette entrevue datant de 1972.
Nous avons des témoignages qui corroborent la version donnée par Mérine au sujet des abus flagrants et du scandale qui existe à l'unité spéciale de correction. Et on n'a pas le droit de cacher la vérité au public.
Daou participe à l'époque à un comité mis en place pour mettre fin au système des unités spéciales de correction.
Nous avons formé ce groupe parce que les dénonciations de Mérine sont très précises, sont très graves, sont très sérieuses et il faut évidemment que la vérité éclate. Et nous entendons la faire éclater.
Un disque vinyle des enregistrements de Jacques Mérine a même été réalisé et vendu par Photopolis au Québec. On y entend pendant presque une heure un Jacques Mérine qui semble beaucoup s'écouter parler.
Je pense avoir une parole d'honneur malgré que je sois un voleur. Je peux vous affirmer une chose. La chambre à gaz à l'unité spéciale de correction, elle existe. J'ai vu des gars en sortir, et puis dans un drôle d'état. J'ai vu un petit gars qui est condamné à prison à vie, je ne sais pas ce qu'il a fait, et ce n'est même pas à moi de le juger, revenir le visage complètement brûlé par les gaz.
Jacques Mérine, qui vient de s'évader de Saint-Vincent-de-Paul, interpelle les politiciens. Il parle de chambre à gaz. C'est quoi cette histoire de chambre à gaz à Saint-Vincent-de-Paul?
Au-dessus des cellules, au lieu d'avoir un plafond, comme normalement il y en a dans les cellules, c'était une grille. Donc, le personnel pénitentiaire pouvait passer au-dessus des grilles et visualiser les détenus dans leurs cellules. Et quand les détenus pouvaient manifester des revendications ou s'interposer dans ce qui leur était exigé, ils pouvaient être gazés directement par le plafond.
Avec du gaz au poivre ou du gaz lacrymogène.
C'est ça.
Donc au fond, Mérine y est très malin parce qu'il dénonce une réalité, mais il le fait dans des termes qui sont très particuliers. Puis comme tu le sais, le terme « chambre à gaz » a quand même une connotation extrêmement lourde de sens.
Oui, c'est sûr qu'il ne l'a pas fait innocemment, ça c'est très clair. On peut dire qu'il y avait le sens du verbe qui permettait justement d'amener un intérêt, une attention sur le sujet.
Et ce sens du verbe, souligné par Jean-Claude Bernheim, s'inscrit dans un contexte qui dépasse alors la simple personne de Mérine, qui est un criminel de droit commun, mais pas un activiste politique.
C'était vraiment, je dirais, révolutionnaire, explosif. On peut avoir un discours révolutionnaire sans être révolutionnaire. Là. Ça, c'est deux choses totalement distinctes.
Car si on s'active au Québec pour mettre fin aux quartiers de très haute sécurité, au même moment, dans toute la province, un combat plus large est à l'œuvre. un combat politique et idéologique, celui de l'indépendance du Québec. La province vient de traverser des événements très marquants après l'enlèvement et la mort d'un ministre en 1970. Le Québec s'était alors trouvé sous le coup de la loi des mesures de guerre et l'armée était dans les rues. C'est ce qu'on a pudiquement appelé la crise d'octobre.
L'armée a fait son entrée à Montréal et à Québec.
Cette affreuse nouvelle nous a tous consternés et indignés.
Avec la vague d'arrestations qui s'est produite, il faut quand même rappeler pour les gens que le balado est écouté aussi en France, on a à la crise d'octobre l'arrestation de plus de 400 personnes, dont des intellectuels, des poètes, des penseurs, des philosophes, des gens qui ne sont pas des criminels, et dont une partie restera en prison pendant assez longtemps. Et j'ai l'impression que cette contestation que Mérine apporte du système pénitentiaire, elle vient certainement, sans qu'il en ait eu conscience, s'inscrire dans une contestation plus large de tout ce qui se passe à l'époque.
Ah oui, tout à fait. Justement, c'était la première fois qu'un criminel de droit commun se retrouvait à avoir la parole auprès des médias. Et avec beaucoup d'ouverture de la part des médias.
Une grande audience.
Une grande audience, ce qui fait que les autorités politiques pouvaient pas rester muettes et insensibles. Elle devait réagir.
Les élections fédérales de 1972 sont toutes proches et la question des prisons met de la pression sur le gouvernement de Pierre-Éliott Trudeau, alors farouche adversaire de l'indépendance du Québec.
On était au début des années 72-73 dans un climat de revendications politiques, de revendications reliées aux droits en général et aussi des droits des détenus. Et c'est dans ce contexte-là que l'intervention de Mesrine s'est inscrite, et c'est ce qui a fait en sorte qu'il a pu avoir aussi tout cet impact.
En quelques mois de présence au Québec, Mérine s'est imposée par ses évasions et sa manie de s'adresser aux médias comme un voyou très médiatisé au regard de ce qui n'est encore qu'une courte carrière criminelle. Et si son palmarès, comme on dit en parlant du CV des criminels, ne fait pas encore de lui un truand de haut vol, il va bientôt y remédier en s'associant avec Jean-Paul Mercier dans une série de braquages audacieux qui démontrent sa détermination et son impulsivité et ne laissent rien présager de bon pour l'avenir.
Et si vous agissez en chien, vous attendez pas à ce que nous on agisse en colombe. Si un voleur est armé, c'est pour s'en servir aussi. Si vous laissez l'unité spéciale de correction ouverte, si vous l'acceptez, monsieur les journalistes, le public en général, je vous rends responsable, moi, personnellement, de tout ce qui peut arriver pour la faire fermer. Si vous voulez du spectaculaire, vous allez en avoir du spectaculaire, puis du spectaculaire gratuit.
Il volait une banque d'un côté de la rue, et alors que la sirène, évidemment, de la banque partait, il traversait la rue et il prenait le temps d'aller commettre un autre vol à main armée. Alors, il est devenu rapidement, évidemment, une figure presque légendaire.
André Normandeau est un criminologue québécois qui a rencontré Mérine en prison au début des années 70. Il m'explique comment, en parallèle à sa lutte médiatisée sur les conditions de détention, Jacques Mérine se perfectionne dans les attaques de banque en compagnie de son complice, Jean-Paul Mercier. Mercier est un braqueur aguerri et c'est en sa compagnie que Mérine s'est évadé de prison quelques mois plus tôt. Et les braquages se succèdent à un rythme impressionnant.
Il a fait la même chose en Beauce chez nous pendant la période où il a fait carrière au Québec. Il a volé dans une des petites villes de Beauce. Donc, il a pris le temps, après ce premier vol-là, avec sa voiture, de faire 8 km et dans une autre ville de la Beauce, de commettre un nouveau vol à main armée dans une banque sans que, évidemment, la police n'intervienne avant plusieurs minutes. Donc, j'ai choisi, il disait vraiment ça, j'ai choisi d'être un voleur, j'ai choisi une carrière, c'est plus passionnant, c'est excitant, et donc c'était grisant pour lui de vivre une telle vie.
Deuxième épisode, à l'école du crime. En 1972, Mérine bâtit de front à la fois sa carrière de voleur de banque et la médiatisation de son personnage de grand criminel. Durant les recherches que j'ai menées, il m'est rapidement apparu que cette année a été particulièrement formatrice pour lui. C'est à ce moment-là, en pleine cavale, que Jacques rencontre Jocelyne de Reich, celle qui sera sa nouvelle compagne et qui est alors caissière dans un supermarché. Une rencontre que Jocelyne de Reich, aujourd'hui décédée, raconte dans une rare entrevue donnée au documentariste Philippe Roisès. Une entrevue qu'il a accepté de partager avec nous.
Bon, j'ai rencontré Jacques. C'est une amie à moi qui voulait, j'avais rencontré un type qu'elle voulait me présenter, qui voulait me connaître. Et pour lui faire plaisir, c'était ma grande copine. J'y suis allée et ma vie a changé en rencontrant non seulement Jacques Messrine, mais Jean-Paul Mercier. C'était censé être dans une discothèque. Et arrivé à la discothèque, un copain de mon ami nous attendait et nous emmenait dans un motel en arrière. Fait que j'ai été sur la panique parce que je pensais que c'était une arnaque. Et quand j'ai voulu déplacer Norier pour m'accoter et pour me laisser plus de liberté pour arriver à la porte de sortie, je suis tombé sur une mitraillette, des armes à feu. Et là, je dois dire que oui, j'ai eu peur. Mais aussitôt que j'ai vu Jacques, il l'a vu sur moi. Immédiatement s'est levé. Il m'a dit « ça va, calme-toi ». Puis là, il a commencé à parler avec sa voix. Il est venu me chercher. Pas juste dans mon cœur, mais dans mon âme aussi. Il m'a mis en toute confiance. Il était en prison, ça faisait un bon moment, puis il voulait avoir une femme. Je présume que c'est pour le sexe. Mais il a changé d'idée. Il a changé d'avis. Il avait plus envie de faire l'amour. Là. C'est plus une question de sexe. Il voulait me connaître véritablement. Parce que moi aussi, j'avais atteint son cœur sans m'en rendre compte, sans le savoir. Parce qu'on a passé une nuit à parler. Ça a donné que ça a été mon grand amour dans ma vie. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai été foudroyée par une sorte d'attirance et de confiance. Pour moi, ça a été un coup de foudre. J'aurais jamais pensé que lui, c'était réciproque.
Quelques semaines plus tard, Jacques propose à Jocelyne de vivre avec lui. Jocelyne est très jeune à cette époque, elle a 18 ans, tandis que Jacques en a le double.
C'était pour mon anniversaire, j'ai eu 18 ans. Il m'a offert un médaillon, un lion, mon signe zodiaque. Et l'autre cadeau, c'est qu'il m'a demandé si je voulais demeurer avec lui, qui demeurait aussi avec Jean-Paul Mercier à l'époque, à Montréal, à Bellechasse. Jean-Paul Mercier, lui, et il avait les cheveux longs, à la mode, la coupe Longueuil, comme on l'appelle ici. Il était vraiment beau, lui aussi. Puis très sympathique, puis c'était un type qui riait beaucoup.
Mérine et Mercier forment une équipe efficace qui enchaîne les vols à main armée. Le couple Mérine de Reich vit du fruit de ses crimes.
Il me disait, bon, OK, on part pour, bon, ça va prendre 7 minutes, mettons, si la banque n'était pas loin. Dans 7 minutes, je suis de retour. Puis quand il arrivait, c'était l'argent. Des sacs d'argent.
Mais Jacques Mérine et Jean-Paul Mercier ne perdent pas de vue leur combat contre le milieu pénitentiaire. L'occasion pour Mérine d'occuper encore l'espace médiatique et de se présenter lui-même comme un homme d'honneur, fidèle en amitié.
Moi, personnellement, j'y ai des amis à l'intérieur de l'unité spéciale de correction. Et tant que je vais être libre, je vous le dis, tant que je vais être libre, je serai peut-être plus libre dans une heure, peut-être plus libre dans deux heures. Mais tant que je vais être libre, je vais faire quelque chose pour faire fermer l'unité spéciale de correction. Je risque de faire mal, très mal.
En septembre 1972, Mercier et Mérine tentent d'attaquer le pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul pour provoquer une évasion de masse. Un acte aussi inconscient qu'impossible à mener à bien, quand on sait qu'à l'époque, la prison compte plus d'une soixantaine de gardiens. Plusieurs d'entre eux font feu sur la voiture des fugitifs. « Mercier et Mérine sont tous les deux blessés, mais ils parviennent à s'en sortir malgré tout. Un geste fou que l'expert en criminologie Jean-Claude Bernheim replace dans le contexte de l'époque.
Quand ils attaquent le pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, il n'y a rien de politique là-dedans. Là.
Absolument pas, c'est pas politique, il veut libérer ses co-détenus. Je suis d'accord, c'est sûr ça. Mais c'est quand même une action dans le contexte. Je veux dire, je pense que les autorités le voient comme un révolutionnaire qui essaie de faire exploser le système, l'institution. Mais c'est jamais un événement en particulier qui va faire que les choses vont changer radicalement. La preuve en est, c'est que rien n'a changé radicalement depuis.
Mais ça, c'est un point très important. Parce qu'on dit, oui, finalement, après toute cette histoire, ils ont fermé Saint-Vincent-de-Paul. Mais ils n'ont pas fermé Saint-Vincent-de-Paul à cause de ça ou dans l'objectif de dire on arrête les sécurités maximum.
Non, non, ils ont fermé Saint-Vincent-de-Paul parce que il y a d'autres pénitenciers qui ont été construits. Et que la gestion de ce pénitencier avec l'architecture du 19e siècle faisait en sorte que les coûts nécessaires pour moderniser éventuellement l'institution auraient été exagérément élevés. Il était moins coûteux de construire quelque chose de nouveau ailleurs et en même temps de faire une rupture dans l'histoire. On a tenté de changer de nom du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul en institution Laval. Mais ça n'a jamais marché, ça n'a jamais pris.
C'est un beau terme, ça, l'institution.
Oui, c'est très, très beau.
C'est noble.
Oui, oui.
Encore aujourd'hui, on entend souvent dire que c'est Mérine qui a fait fermer l'unité spéciale de correction. Un mythe entretenu par le disque vinyle de Photopolis, dont les rares exemplaires circulent parmi les collectionneurs et dans lequel Mérine évoque sa haine pour les unités pénitentiaires spécialisées. Si la lutte de Mérine contre le système carcéral canadien n'a pas connu le succès espéré, elle aura tout de même fait de lui un personnage public. Sans jamais être révolutionnaire, Mérine est dès lors identifié comme le porteur d'un message de contestation violente contre le système carcéral et plus largement contre la société dans son ensemble. Mais à l'époque, le milieu criminel québécois commence à trouver le bandit français un peu trop voyant et de plus en plus gênant pour les affaires. D'autant plus que Mérine et Mercier commettent à l'automne 72 un geste irréparable. Alors qu'ils s'entraînaient au tir dans les bois, les deux hommes sont contrôlés par deux gardes-chasse. Médéric Côté et Ernest Saint-Pierre sont alors froidement abattus. Les circonstances de ce double meurtre ont fait l'objet de nombreuses versions pour déterminer qui, de Mérine, Mercier ou les deux, avait tiré sur les gardes-chasse. Malheureusement, les deux seuls témoins de ce crime sont morts. Nul doute que ce double meurtre, commis dans un petit village du centre du Québec, incite plus que jamais les policiers à mettre la main sur les deux criminels, désormais devenus des meurtriers. Et il faut compter avec le fait qu'à l'époque déjà, Jacques Mérine se vante d'avoir commis de nombreux meurtres en France. Des déclarations dont nous verrons plus tard qu'elles sont à prendre avec beaucoup de précautions. C'est à ce moment-là qu'entre en scène un Français du nom de Michel Ardouin, qui sera plus tard surnommé « porte-avions » à cause de sa propension à porter sur lui un lourd arsenal. Ardouin est aujourd'hui décédé, mais l'auteur et documentariste Philippe Roisès m'a confié l'entrevue qu'il a réalisée avec ce criminel français qui était, dans les années 70, en contact avec les poids lourds du crime organisé en Amérique du Nord.
Quand je monte au Québec pour la première fois, j'ai un rendez-vous avec Ashti, qui est le représentant des Cotronies, pour une offre de marché, disons. Et moi, je sortais de la Latino Connection, j'avais tout un réseau au Venezuela, on avait des anciens de la Gestapo, des anciens de Cayenne, qui avaient eu des bordels, qui s'étaient installés, qui avaient mouillé la police, enfin, c'est l'Amérique latine, on ne peut pas comprendre ici comment c'est, mais c'est le Pérou.
Ardouin entend parler pour la première fois de ce compatriote qui donne du souci au milieu montréalais.
Et c'est une fois l'entretien terminé où moi je ne suis pas compétitif, donc on arrête, on décide d'arrêter, où Ashti me dit, il y a un compatriote à toi en maudit qui n'arrête pas de nous casser les gosses en québécois c'est les couilles, et j'ai dit qui c'est, il me dit c'est Mérine, c'est une vedette chez vous. J'ai dit écoute, moi je connais Joaquia, je connais Mégarini, mais je ne connais pas de Mérine, il en a tué 40 chez vous. Il s'est inventé 40 meurtres en France, qui était un immense gangster européen, voilà, chose. Et Mérine, quand il est arrêté et arrivé en prison, il s'est inventé un passé européen, qu'il avait, parce que là-bas, il y a une telle violence dans ces pays par rapport à la France, et comme il faisait pas un pas en arrière, il a réussi à se faire croire. Et il était pas peureux, Mérine. Quand il imposait une idée ou sa volonté, c'était comme ça. Donc il s'est fait la cote là-bas, mais c'était que dalle. Mais quand il s'évade, ce que me dit Asti, il me dit il nous emmerde parce qu'il envoie des cassettes aux radios, il envoie des articles aux journaux, les putes circulent plus, la drogue circule plus, les loteries de rue circulent plus. Il est en train de nous faire perdre 50% de notre chiffre d'affaires. Et c'est là où moi, par quelqu'un, je connais Raymond Daou, qui était son avocat, qui était un mec merveilleux. Et je rencontre Mérine, il y avait Jean-Paul Mercier qui était en garde du corps, je rigole, je dis ouais, t'es protégé. Il rigolait, il était le mec le plus recherché au Québec, il était plein de frimes, plein de folklore, plein de conneries.
La volonté de Mérine d'attirer systématiquement l'attention est peu conforme aux pratiques habituelles dans le milieu des bandits aguerris. Et Michel Ardouin dit n'être ni impressionné par le CV criminel de Mérine, ni par l'attaque plutôt improvisée du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul.
Deux mecs, avec une voiture, avec un petit peu d'armement, contre cinq miradors, parce qu'il faut l'avoir la prison là-bas, il a juste pris une balle dans la jambe et il est retourné. À mon sens, il le fait parce que tout le monde va parler de lui. Je connais sa nature profonde, c'est un égoïste profond, il fait ça pour se faire un folklore, se faire valoir. Bon, de toute façon, c'est voué à l'échec.
Pour Ardouin, le parcours de Mérine en France à ce moment-là était négligeable et même plutôt amateur. Il semble d'ailleurs reconnaître beaucoup plus d'expérience à Jean-Paul Mercier.
C'est un très bon soldat, Mercier. C'est un bon braqueur de banque, c'est un mec fidèle. C'est un mec très bien, voilà. Je peux dire que du bien. Le peu que je l'ai eu connu, c'est un mec très bien.
Ardouin explique même que monter au braquage, comme on dit, avec quelqu'un comme Mercier, a vraisemblablement été formateur pour Jacques Méry.
On dit toujours qu'un mec qui a braqué au Québec peut braquer dans le monde entier. C'est très dur, il faut être très professionnel et très rapide. Il a attaqué quelques banques avec Jean-Paul Mercier et c'est devenu un très bon braqueur. Il était très bon. Un braquage de banque au Québec, c'est vous avez trois mecs qui rentrent. Il y a le gérant, il y a le directeur. Il y en a un qui chope le gérant qui dit « On va faire la voûte ». La voûte, c'est les caisses en bas. Et les petites, donnez les sacs. Alors, ils mettent l'argent dans des sacs en papier comme les alcooliques aux États-Unis qui mettent des bouteilles, des sacs bêches. Et le mec, il court à la voûte. Il court au coffre. Il dit « Vous avez tenu, monsieur. Mais les flics vont arriver, on sait. Et le troisième qui reste à la porte a un chrono. Il annonce ses secondes. 20 secondes. 30 secondes, 40 secondes, 55 secondes, get away! Faut partir. Parce que les brigades fluviales, les brigades d'hélicoptères et les brigades de voitures sont là sur 70 secondes. Mais il y a fusillade une fois sur deux. Et les bœufs là-bas tirent immédiatement. Y a pas de cadeau, il n'y a pas mis les mains sur la tête, il n'y a pas. Donc, on disait toujours qu'un mec qui avait travaillé au Québec pouvait travailler dans le monde entier.
Pourtant, malgré ses compétences de voleur de banque, la pression se fait de plus en plus forte sur Mérine. À entendre les explications de Michel Ardouin, il semble que la décision de son départ ait été prise par de hauts responsables du crime organisé au Québec. C'est ainsi que fonctionne ce qu'on appelle le milieu. Certaines décisions sont prises en haut lieu pour assurer la pérennité des affaires. Et dans le cas de Mérine, même son avocat, Maître Daou, semble avoir été mis dans la confidence.
Daou était d'accord qu'il quitte, Asti voulait qu'il parte et lui était d'accord pour partir parce que c'était insoutenable. C'était le mec le plus recherché avec sa publicité à la con, c'était le mec le plus recherché de tout le Québec, de tout le Canada d'ailleurs, hein. même chez les Anglais. Hein.
Jacques Mérine, Jocelyn Derèche ainsi que Mercier et sa compagne Suzanne Francoeur partent donc à New York. Durant ce voyage, Jacques Mérine utilise un passeport qui lui aurait même été fourni par la mafia selon Ardouin. Il s'installe à New York dans l'un des hôtels les plus luxueux de la ville, ce qui donne lieu, comme le raconte Jocelyn Derèche, à une rencontre surprenante.
On demeurait au Waldorf Astoria. D'ailleurs, j'ai rencontré Pierre-Éliott Trudeau avec sa femme et ses deux garçons à l'époque qui me regardaient et moi je leur ai fait une grimace et ça l'a choqué Jacques. Mais moi j'avais 18 ans à peine, j'en avais rien à foutre. Et de New York, on a pris l'avion pour le Venezuela.
Peu de temps après, la petite bande composée de Mérine, Derèche, Mercier et Suzanne Francoeur s'installe dans une villa à Caracas. Ardouin leur fait alors bénéficier de la protection bienveillante du chef de la police locale. La vie y est douce, mais Jean-Paul Mercier a parfois le blues du pays.
J'ai vu Jean-Paul pleurer, verser des larmes. Il chantait avec la guitare au sol mio. Il voulait que ses parents viennent le rejoindre. Puis il cherchait avec Jacques un moyen. Puis Jacques lui avait dit non, c'est impossible d'attirer de mettre ta famille dans le trouble. Et moi, j'ai trouvé ça beau. Qu'on dise c'est ce qu'on veut, c'est comme ça.
Mais le séjour de quelques mois sous les tropiques touche bientôt à sa fin à cause d'une morsure de chien.
On avait deux bergers allemands et un des bergers allemands m'avait mordu un genou et après a sauté sur l'ami de Jean-Paul, Suzanne. Et il la traînait littéralement par la tête. Ça lui a causé des blessures immenses. Ils n'ont pas pu la soigner au Venezuela. Donc, elle a dû revenir au Québec. Et au Québec, elle s'est fait arrêter. Ils se sont fait pogner après un hold-up en sortant d'une banque. Avec les passeports, les policiers ont vu qu'ils venaient du Venezuela. Donc, ils ont su tout de suite où était Jacques.
À cette époque, dans un pays comme le Venezuela, la protection des autorités locales pouvait vous mettre à l'abri de beaucoup de choses, y compris des autorités policières du Canada. Mais Mérine a commis une grave erreur.
Il est monté à Macuto, il a joué au poker, il a giflé le patron du Sheraton Hotel, qui est un ami du chef de la police, là-bas, faut pas faire ça. Et puis l'autre a reçu les mandats d'arrêt du Québec. Il a dit, là, c'est trop grave, je peux pas aider ces gens-là.
Jacques Mérine et Jocelyne de Reich décident de revenir en France, ce qui est étrange tout de même quand on pense qu'ils auraient pu aller dans tellement d'autres pays. À la fin de l'année 1972, la boucle est bouclée et le premier acte de la carrière criminelle de Jacques Mérine se termine. Quelques mois plus tard, son complice Jean-Paul Mercier sera condamné à la perpétuité pour le meurtre des gardes-chasse avant de s'évader à nouveau et être tué au cours d'une attaque de banque. Jacques Mérine est revenu en France après avoir commis au Canada toute la gamme des actes criminels qui vont du vol à l'enlèvement puis au meurtre, en passant par l'attaque à main armée. Il est désormais devenu un criminel et un braqueur de banque aguerri. Il a découvert, avec Raymond Daou et Photopolis, le fonctionnement d'un système médiatique qu'il saura ensuite, plus que jamais, utiliser pour construire son image. Le documentariste Philippe Roisès m'explique très clairement comment ces apprentissages seront bientôt mis à profit.
Moi, je me plais à dire que le Québec, pour Mérine, c'est la répétition générale de ce qui deviendra en France, quand il va rentrer. Il y a tout. L'image du braqueur gentleman, faisant des blagues avec les employés qui se trouvent dans les banques, mais en même temps les menaçant quand même. L'enlèvement du millionnaire, le vengeur qui dénonce les conditions de détention. Des tas d'éléments comme ça qu'on va retrouver trait pour trait quand il sera de retour en France. On a vraiment l'impression qu'il s'est dit... Eh ben, au Québec, j'ai été connu pour ça, ça a marché. Je vais refaire exactement la même chose en France.
De retour à Paris, Mérine a compris que la meilleure façon d'avoir un destin unique est de le façonner lui-même. Et il a pour cela de grands projets en tête. Merci d'avoir écouté le deuxième épisode de Mérine, l'orgueil et le sang. Je suis Stéphane Berthomet, j'ai scénarisé et animé cette série, qui est réalisée par Cédric Chabuel. Cette série est une coproduction Radio-Canada Audio et France Culture. On se retrouve pour la suite au prochain épisode.
Il y a une nécessité quasiment chez lui de pousser le bouchon toujours plus loin, de se challenger lui-même et d'entraîner les autres.
On était en cavale, on travaillait ensemble, il sortait à mon insu. Il allait dans les cercles clandestins de jeu tous les soirs, il faisait la tournée de ceci, la tournée de cela, il a peur de rien, il sortait, il jouait sa chance, il jouait son jeu.
Moi j'ai remarqué qu'en le tenant à la gorge, le titre ne tenait plus à terre. Il était en train de le tuer, de ses mains.
Vous venez d'écouter une adaptation antenne des deux premiers épisodes du podcast original Mérine, l'orgueil et le sang, de Stéphane Berthomet. Et on a la chance, justement, de vous avoir avec nous, Stéphane, depuis le Québec.
Bonjour.
Stéphane, vous êtes vous-même un ancien policier reconverti dans l'enquête documentaire. Est-ce que votre métier d'origine vous a été utile pour enquêter sur Jacques Mérine ?
Mais c'est sûr que ce bagage-là, il m'est difficile à la fois de l'oublier et de pas m'en servir dans ce que je fais actuellement, parce qu'il y a beaucoup de points de convergence entre les formes d'enquête policière et la forme d'enquête documentaire. Il y a un lien très très fort entre les deux, d'autant que ce sujet, celui de Jacques Mérine, est pas venu par hasard, puisque c'est un personnage qui est très connu dans le milieu policier. Alors je pense que les deux, effectivement, restent encore intimement liés.
Est-ce que vous-même, Stéphane, vous avez découvert des choses sur Jacques Mérine auxquelles vous ne vous attendiez pas ?
Oui, j'ai appris beaucoup de choses et c'est ça qui est intéressant, c'est que au fond, Jacques Mérine, c'est un peu comme tous les sujets qu'on pense connaître parce qu'ils sont très médiatisés, qu'on en parle beaucoup, qu'il y a eu des films qui ont été faits. Mais quand on creuse, quand on se donne le temps d'aller chercher en profondeur et surtout, je dirais, de parler à des gens qui l'ont connu comme on l'a fait dans ce podcast, ben on apprend des choses, on découvre des choses sur le personnage. Et vous savez que notre objectif, c'était aussi un petit peu de décrypter le lien ou le passage entre l'homme, entre Jacques Mérine et son versant criminel, là, son image qui s'est imposée dans les médias, dans l'imaginaire collectif, celui de l'ennemi public numéro un. Alors, on a fait vraiment un travail là-dessus et j'ai fait un gros travail de recherche pour essayer de comprendre ce qui se passait entre justement l'homme et son côté plus médiatique.
Alors dans ce podcast, vous avez aussi fait le choix de largement faire entendre les femmes qui ont partagé la vie de Mérine, qui l'ont aimé parfois follement, passionnément. On entendra d'ailleurs sa première femme, Lydie Gatté, dans le troisième épisode. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans le regard de ces femmes sur cet homme ?
Bien, en fait, on est allé chercher plusieurs choses. D'abord, le fait de leur donner la parole, qui nous semblait important, parce que on se rend bien compte que dans ces sujets-là, il y a peu souvent la parole des femmes, encore moins quand il s'agit de criminels qui sont ultra médiatisés. On a tendance un petit peu à oublier que dans beaucoup de cas, et ça, moi, je l'ai découvert à nombreuses reprises, il y a des femmes qui ont joué des rôles importants dans la vie de ces criminels-là. Et donc, on a tendance un petit peu, parce qu'on s'en tient aux lignes fortes de l'histoire, à occulter leur rôle. Donc on est allé chercher cette parole-là qui me semblait importante et dans le cas de Lydie Gatté, ça me semblait encore plus pertinent parce que c'est quelqu'un qui est maintenant aujourd'hui très âgé, qui a été très peu interrogé sur Jacques Mérine parce qu'elle l'a connu au tout début de sa carrière criminelle en tant que personne et au tout début finalement de sa vie d'homme. Donc ça me semblait très pertinent d'aller chercher quelqu'un qui avait connu cet homme alors qu'il était encore à la charnière on pourrait dire presque du monde réel et du monde criminel. Et elle a un regard qui nous a beaucoup surpris et touché justement sur le personnage.
Est-ce que vous avez en tête, en mémoire, un moment particulier d'échange avec elle ou la situation d'interview qui vous a frappé ?
Oui, bien sûr, il y a un moment où en fait elle est avec son fils Dominique, ils sont tous les deux dans leur salon et elle demande à Dominique d'aller chercher une photo de l'époque où elle était avec Jacques Mérine et donc il y a une photo de Jacques Mérine chez elle encore dans son salon. Il faut pas oublier que Jacques Mérine est le père de Dominique et là aussi on a eu quand même accès à des informations je dirais pas unique, mais quand même, je trouve très intéressante dans la compréhension d'un personnage, c'est la relation entre Dominique Mérine et ce père qu'il n'a quasiment pas connu, avec qui il a eu des échanges épistolaires. Et donc, on a eu à la fois des échanges touchants avec Lydie et aussi avec son fils à l'occasion justement de cette photo dont on a parlé, de cette époque dont on a reparlé.
Ce qui donne notamment une très très belle séquence à écouter dans le dernier épisode du podcast, dans le sixième épisode. Vous avez aussi fait le choix de commencer à raconter le parcours de Mérine par son exil au Québec. Qu'est-ce que ça nous raconte au fond de son itinéraire ?
Ça, je pense que c'est quelque chose que les gens vont avoir plaisir à découvrir et je pense sur lequel beaucoup de personnes vont être surpris. Parce que, en fait, on s'est rendu compte en rentrant dans le détail du parcours de Mérine au Québec que ça a été une sorte de répétition générale de ce qu'il a fait en France. Faut pas oublier que Mérine est devenu l'ennemi public numéro un ou en tout cas l'un des criminels les plus recherchés ici au Canada assez rapidement. Faut dire qu'il a enchaîné les mauvais coups et de la mauvaise façon en plus, parce qu'il s'est rapidement embarqué dans des histoires où ils ont été identifiés très vite par les policiers, pourchassés par les policiers, arrêtés. Et donc, ce qui est intéressant dans ce parcours au Québec, c'est qu'on voit à la fois que Mérine commence à imaginer le personnage qu'il va devenir, parce que c'est aussi ça qu'on identifie et qu'on a dans les témoignages de gens qui l'ont fréquenté, notamment quand il était en prison ici au Québec. On comprend qu'il bénéficie de la distance entre la France et le Québec pour s'inventer en quelque sorte un personnage un peu iconique, plus grand que nature, et notamment ses complices aussi le diront. Mais on voit aussi que la séquence des événements qui se sont produits au Québec a été répliquée, les enlèvements, les attaques de banque, et a fait ce qui est devenu finalement Jacques Mérine en France, l'ennemi public numéro un.
Est-ce que vous avez cherché, dans la forme que prend ce podcast, à rendre compte de ce hiatus entre la personne qui était Jacques Mérine et sa personnalité, son personnage ?
Ben en fait, l'objectif du podcast, c'était pas de raconter la énième histoire de Jacques Mérine. Même si on a apporté des éléments qui, je pense, sont nouveaux, on a apporté des témoignages qui sont nouveaux, on a été chercher des gens qui avaient été moins interrogés sur le sujet. Mais l'objectif, c'était avant tout, effectivement, de mettre le doigt sur le lien, ou en tout cas la dichotomie entre l'homme et le criminel ultra-médiatisé, et un peu ce sort de personnage dont on voit qu'il joue et dont il se délecte visiblement dans les médias, dans ses rapports avec les policiers, etc. Donc on a essayé de comprendre qu'est-ce qui avait pu pousser ce gars-là qui, au départ, hein, de sa vie d'adulte, est un petit criminel, commet des actes criminels quelconques, comme beaucoup de gars de son âge et de cette époque notamment, mais qui a fait que lui est devenu quelqu'un de particulier dans le paysage criminel, dans le paysage médiatique et même dans l'univers policier. Il a marqué beaucoup l'univers policier, Jacques Mérine.
Est-ce que vous avez réfléchi à la forme que prendrait cette publicisation du personnage à travers toutes les archives que vous avez utilisées dans le podcast, par exemple ?
Oui, on avait plusieurs préoccupations en faisant ce podcast. D'abord, l'objectif, c'est évidemment de pas faire un parcours de glorification de sa vie criminelle. Bien sûr qu'il faut relater les faits et on l'a fait de la façon la plus juste possible. Mais l'objectif, c'était tout le temps de garder en tête une sorte de grille de compréhension, une sorte de recherche de clés, de réponses non pas à chacun de ses actes, parce qu'il y en a pas toujours, mais plutôt au parcours dans son ensemble. Qu'est-ce qui fait que cet homme, au départ assez ordinaire, est devenu le sort de modèle criminel qu'il est encore aujourd'hui pour beaucoup de gens, une sorte de héros moderne qu'il est encore aujourd'hui pour beaucoup de gens? Qu'est-ce qui, dans son attitude, dans sa volonté d'être et de paraître, l'a transformé en ce personnage qu'il s'est construit tout au long de sa vie? Je pense que c'est un peu ça la clé de ce podcast-là. C'est la compréhension de ce qu'est la construction d'un personnage aussi grand et aussi légendaire que celui de Jacques Mérine, l'ennemi public numéro 1.
Et selon vous, Stéphane Berthomé, le podcast, la forme sonore, c'est une forme particulièrement adaptée pour restituer ce genre de préoccupations, loin de la glorification du mythe Mérine qui passe aussi énormément par l'image, dans l'imaginaire collectif?
Mais je dirais que c'est la forme suprême, l'audio. Je ne vais pas trahir le média pour lequel je me suis engagé depuis des années, dans lequel j'ai tellement de plaisir à travailler. Je crois que le podcast, c'est vraiment la forme idéale pour retranscrire les choses avec justesse, avec délicatesse, en étant précautionneux, sans en rajouter dans la forme, parce que c'est vrai, c'est souvent dans l'image qu'on tord un petit peu la réalité des choses et qu'on a besoin d'aller chercher quelque chose de plus flamboyant. Là, on a évité justement la flamboyance tout en restant dans la justesse, dans l'équilibre, dans le vrai récit, dans les faits tels qu'ils se sont déroulés. Donc je pense que c'est là-dedans qu'on a vraiment toute la différence entre l'audio et le reste des médias.
Ben merci beaucoup Stéphane Berthomé pour votre très beau travail d'enquête autour de Jacques Mérine. Et pour connaître la suite de ce podcast original, ben je vous invite à retrouver dès maintenant les 6 épisodes de Mérine, l'orgueil et le sang sur franceculture.fr et l'application Radio France. Et vous aurez par ailleurs l'occasion d'entendre les épisodes 3 et 4 à l'antenne de France Culture samedi prochain de 16h à 17h.